Chapitre 2. Développez vos talents. Alors que notre pensée se renouvelle, nous cernons mieux la valeur de notre profession et du travail en général. Ce fondement nous libère pour développer sans ombre les talents que Dieu nous a donnés. Le courage. Une dame m'a un jour demandé « Depuis plusieurs années, j'aimerais ouvrir un salon de coiffure. Est-ce vraiment la place d'une chrétienne engagée ?» Cette question en cachait bien d'autres. Ai-je le droit de prendre des risques? S'occuper de coiffure, n'est-ce pas un métier futile? Ai-je le temps de me lancer dans une telle entreprise avant le retour du Seigneur? Est-ce le moment d'investir alors que l'avenir est incertain? Une théologie de repli, morose et défensive, semble avoir pris une place considérable. Jésus, lui, par sa vie et son enseignement, encourage une saine audace, joyeuse et offensive. Je lui ai répondu, « Il est certain que la société a besoin de salons de coiffure gérés par des chrétiennes. » Les journalistes nous disent que c'est souvent là que se déroulent les conversations les plus profondes. Pour la cliente, le salon de coiffure représente une oasis unique et bienfaisante. Celle-ci a, au sein de ses nombreuses responsabilités, servi, consolé, soigné, assumer, supporter sans compter et sans relâche, semaine après semaine et parfois jour et nuit. Maintenant, durant quelques heures, quelqu'un va prendre soin d'elle. Accueillie avec le sourire, elle espère trouver un contact humain, une oreille attentive. Confortablement assise, elle se détend entre des mains expertes qui massent sa tête et l'embellissent. Elle est conseillée, mise en valeur, honorée. L'atmosphère est courtoise. Pas de cris, pas de revendications, pas de pression. N'est-ce pas bénéficier d'un véritable sacerdoce? Évidemment, la patronne revêche, assise sur sa caisse et manipulatrice en faveur de son style, existe. C'est une raison de plus pour encourager la coiffeuse diligente et sensible, capable de prodiguer conseils esthétiques et spirituels. Ses confidentes seront d'autant plus touchées que le milieu avoisinant est désinvolte, insécurisé et parfois cruel. Remarquons au passage que si la Bible interdit la calomnie, elle encourage la bénédiction, même secrète, sous les mains d'une coiffeuse qui met ses nombreux talents au service de son prochain. L'esprit d'initiative. Quand Joseph a interprété les songes de Pharaon concernant les vaches et les épis vus en rêve, il s'est permis d'ajouter « Que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage, et lui donne autorité sur l'Égypte, qu'il nomme aussi des commissaires chargés de prélever un cinquième des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine, et le pays échappera au désastre. » Genèse 41, versets 33 à 34 et 36. Lui, prisonnier oublié ni insignifiant, a pris l'initiative, devant toute la cour égyptienne, de conseiller un souverain redouté. Pharaon s'est exclamé, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ? Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. » Genèse 41, versets 38 et 41. Nous retrouvons cette même audace chez Ruth la Moabite. Son histoire démontre qu'elle est loin de faire le strict minimum, que ce soit pour choisir l'Éternel comme son Dieu, Israël comme son peuple ou Noémie comme amie pour la vie. Elle prend constamment l'initiative. Elle révèle encore cette qualité dans sa recherche d'emploi, puis dans son travail de glaneuse, au point que le propriétaire des champs, impressionné, la récompense. Quelque temps plus tard, elle deviendra son épouse, et entrera ainsi dans la lignée du Messie. Sans donner toutes les réponses au douloureux problème du chômage, Ruth lui apporte des clés dignes d'être prises en compte, intégration, polyvalence, dynamisme, simplicité, etc. La maîtresse de maison, mentionnée dans l'introduction de ce livre, est, elle aussi, très audacieuse. Nous dénombrons pas moins de 7 activités économiques à son palmarès. Ce texte de l'Écriture n'est pas écrit pour provoquer une quelconque culpabilité, mais pour faire comprendre la joie du service. Loin d'être utopique, Il décrit l'esprit d'initiative d'une multitude de femmes. Sans avoir forcément les mêmes talents, beaucoup d'épouses, de mères, de grandes sœurs, de collaboratrices apportent d'immenses richesses à nos familles et sociétés. Elles seront grandes dans le royaume de Dieu. Dieu est-il concerné par le commerce, les banques et le rendement? Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il plaça ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Quand le maître de ses serviteurs revint, celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant: « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Il en fit de même pour le second. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit: « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit: « Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et, à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, et remettez-les à celui qui en a 1000. » Matthieu 25, 14 à 21 et 24 à 28. Le mauvais serviteur est passif et craintif. Il attend le retour du maître pour se débarrasser de ses responsabilités. Remarquez qu'il n'est pas malhonnête. Il ne dépense pas ses pièces d'or à son profit. Non, il les empêche seulement de fructifier, les privant de toute possibilité de rendement. Les bons serviteurs attendent leur maître d'une toute autre manière. Ils affrontent le risque de l'investissement. Ils manifestent courage, ténacité et vigilance. Ils travaillent et font travailler leur capital. Au final, leur fierté est grande. Le maître est plein d'éloges et les récompense généreusement. Ils entrent chez lui alors que le mauvais serviteur est jeté dehors. Jésus multiplie ce genre de paraboles sous différentes variantes. Il compare à plusieurs reprises son père à un vigneron qui s'intéresse vivement au rendement de sa vigne et met tout en œuvre pour qu'elle porte des fruits en abondance. Nous identifiant au sarment, il affirme que porter beaucoup de fruits, c'est glorifier Dieu. Les branches stériles sont coupées, les autres sont émondées pour qu'elles portent encore plus de fruits. Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher les figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Luc 13, verset 7. Celui qui reçoit la semence dans une bonne terre, c'est-à-dire la parole dans un cœur réceptif, multiplie le capital de départ. Le levain qui travaille toute la pâte, le trésor caché dans un champ, le marchand qui cherche de belles perles, le filet jeté dans la mer sont autant d'actions diverses qui tendent à un résultat de qualité. Dieu s'intéresse au rendement. Si c'est moi seul qui vous le dis, oubliez cette affirmation. Si c'est la parole qui l'affirme, que chacun change sa manière de voir les choses. Certes, ces textes contiennent un message essentiel au second degré. Mais il serait déloyal d'évacuer le sens premier, car les principes énoncés sont bien ceux du royaume. Faire fructifier tous les dons de Dieu, y compris nos capacités manuelles, commerciales et professionnelles en général, est aussi spirituel et important que le reste. Serions-nous donc sauvés par nos œuvres? Non. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi véritable est dynamique, elle rayonne, elle s'engage. La foi sans les œuvres est morte. La repentance sans les fruits qui en découlent n'est pas authentique. L'amour sans obéissance est vide. La foi honorant Dieu n'est pas celle que nous inventons, transformons et adaptons, mais c'est celle qui croit Dieu. Comme l'a souligné un théologien, de même en effet que des capitaux s'augmentent par les intérêts, par le travail, de même toutes les grâces de Dieu se multiplient par leur emploi fidèle dans la vie pratique. Peut-on enfermer Dieu dans les églises? La Bible emploie plus de 420 fois le mot argent, et cela dans 46 des livres qui la composent. Dieu est bien plus concret et pragmatique que nous voulons bien l'admettre. Beaucoup de nos contemporains essayent de l'enfermer dans les églises. C'est tellement plus commode de l'imaginer en vieillard débonnaire que nous visitons de temps à autre que de le percevoir en administrateur souverain de tous les biens. Dans nombre de milieux chrétiens, nous avons tellement insisté sur la grâce, le pardon et le repos en Christ que nous avons donné l'impression que l'ardeur au travail, l'audace, le souci du fruit et l'efficacité étaient très secondaires, pour ne pas dire sans valeur. Si vous avez baigné dans ce seul courant de pensée, laissez-moi vous le dire clairement. Diligence, efficacité et rendement sont aussi les valeurs du royaume de Dieu. Ne sommes-nous pas de toute manière des serviteurs inutiles? Jésus n'affirme-t-il pas que nous sommes des serviteurs inutiles? Non, je ne le crois pas. Un serviteur qui a fait tout ce qu'on attend de lui et tout se fait inutile. Pensez-vous d'ailleurs qu'un serviteur puisse être bon, fidèle et inutile? Si certaines versions emploient ce mot, ce n'est pas dans le sens d'incapable de servir utilement, mais qui n'a rien fait de propre à mériter une récompense exceptionnelle. Nous sommes de simples serviteurs, normaux, ordinaires. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Luc 17, verset 10. Remarquons encore que ce n'est pas le maître qui, dans ce passage, traite le serviteur d'ordinaire, mais que c'est le serviteur qui est appelé à parler de lui-même avec cette humilité-là. Plusieurs textes ratifient cette interprétation. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Nous trouvons cette même expression pour Apollos. Quant à Onésime, la description que Paul en fait à son maître est significative. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. 2 Timothée 2, 21, 4, verset 11. Acte 18, verset 27. Philémon 1, verset 11. La multiplication. Si je rencontrais aujourd'hui la dame dont je vous ai parlé plus haut, j'aurais moi aussi une question à lui poser. Savez-vous que vous pouvez envisager d'ouvrir un deuxième, un cinquième ou un dixième salon de coiffure? Cette question en cacherait bien d'autres. Savez-vous qu'une saine ambition honore Dieu? Que vous pouvez vous développer dans d'autres villes, pays et continents? Que bien des ouvriers attendent votre offre d'emploi? Que les avancées scientifiques dans votre domaine ne sont pas l'exclusivité des autres? Jésus affirme, « Les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. » Luc 16, verset 8. Et les proverbes soulignent, « Quand des hommes justes ont le pouvoir, l'honneur en rejaillit sur tous. » Proverbe 28, verset 12. Multiplier ses talents nous amènera tôt ou tard à l'obligation de déléguer. Moïse en est un parfait exemple, dont certaines multinationales actuelles tirent profit. La délégation. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi procèdes-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout, du matin au soir, le moment de se présenter devant toi? Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Écoute donc ce que je te conseille, et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1 000, de 100, de 50 ou de 10 hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. Et de leur côté, tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Exode 18, versets 13 à 14 et 17 à 24. Voici ce que je vous propose de retenir. 1. Malgré le dévouement et l'onction de Moïse, les besoins dépassent ses capacités. Cela entraîne des frustrations et un gaspillage énorme de temps. 2. Il comprend qu'une délégation de qualité est possible. 3. En conséquence, il choisira et formera des hommes répondant à trois critères. Ils craignent Dieu, ils aiment la vérité, ils sont incorruptibles. 4. Jéthro lui conseille une organisation composée de responsables de 1 000, 100, 50 et 10 hommes, schéma repris actuellement par de grandes entreprises. 5. La différence entre affaires importantes et mineures est établie. 6. Moïse restera en forme et le peuple sera bien mieux servi. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, prenez des initiatives, soyez courageux, formez des collaborateurs de qualité et multipliez-vous.